Bon, eh bien, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Pierre Salnave, je suis le président du département ville, environnement et transport. Je vais beaucoup parler de ville parce qu'au fond, je considère que ça résume un peu tout le thème. Je suis très content de vous voir. Je vais avoir des choses importantes à vous dire. Je vais essayer de ne pas être trop long, même si j'ai compris que vous n'êtes pas trop fatigué par le début de la journée. Je vais parler une vingtaine de minutes. Et puis, on va essayer de s'organiser à plusieurs pour donner un peu plus de rythme à cette séance que juste d'écouter ma voix monocorde. Et je remercie le groupe d'élèves de deuxième année ou de jeunes anciens qui m'accompagnent. C'est une caractéristique de mon département. On fait une équipe. Donc, je vais avoir la chance d'avoir quelques élèves qui vont venir vous raconter ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivent et pourquoi ils sont chez nous, ce qu'ils y aiment, ce qu'ils n'y aiment pas. Et ce que je vous proposerai, c'est une fois passées ces deux étapes, d'abord de m'écouter sagement, puis d'écouter vos anciens parler de ce qu'ils font ou ont fait dans le département. Et bien, on va se regrouper, enfin, on va se disperser pour que vous puissiez, ceux qui auront des questions à poser, plutôt que les faire en amphi avec une question à la fois et un truc un petit peu magistral, eh bien, allez poser les questions à ceux d'entre nous à qui vous aurez envie de vous adresser. Je pense que c'est plus efficace. Alors, j'ai essentiellement une idée à vous transmettre. C'est que si vous voulez vivre dans les 30 ans qui viennent au milieu d'une vraie grande aventure, eh bien, c'est dans le domaine de la ville que vous avez de vraies chances de la rencontrer. Et ça, je pense que c'est une richesse absolument extraordinaire. Lorsque j'étais élève dans cette école, j'ose à peine dire quand, je rêvais de construire des grandes infrastructures. Lorsque j'étais élève dans cette école, je vous disais à l'instant, je rêvais de construire des infrastructures et Dieu sait si j'en ai fait. Et c'est quelque chose de passionnant. On venait de construire le pont de Normandie. Je rêvais devant le pont de Normandie. Objet un peu plus urbain déjà, on venait de construire le Stade de France sur un terrain pollué à dépollué, en pleine zone urbaine en requalification à Saint-Denis. C'était déjà un objet encore plus complexe. Et c'était un objet urbain. Je rêvais devant le Stade de France. Alors j'ai commencé ma carrière en faisant ce genre de choses en plus petit, plus modestement. Et puis après, j'ai travaillé un peu dans tous les domaines qui touchent à l'environnement, au transport, à l'urbanisme. Je me suis même occupé de phares et balises pour ceux qui aiment l'histoire. Aujourd'hui, j'ai une conviction, c'est que ce que j'ai vécu de plus fort, c'est la ville qui me l'a apporté. C'est pas de construire, même si ça a été passionnant, une écluse dans un port. C'est le mécanisme urbain. Et à cet égard, je voudrais vous dire deux ou trois choses pour expliquer pourquoi je pense que ceux qui rêvent d'aventure, c'est en ville que vous allez la trouver. D'abord, ma conviction, c'est que c'est en ville que va se jouer l'avenir de l'humanité dans les 30 ans qui viennent. C'est en ville que se joue le contrat social français. C'est en ville, dans les banlieues françaises dont je me suis occupé pendant des années, qu'en octobre 2005, le monde entier effaré a vu des voitures brûler toutes les nuits. C'est en ville, sur le continent africain, que dans les 30 ans qui viennent, on va voir 1 milliard d'habitants devenir urbains, alors qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Nous sommes à l'aube d'un phénomène de développement urbain dans le monde, et en particulier en Afrique, d'une vitesse, d'une puissance jamais vécue. Ça, si ça se passe mal, et ça peut mal se passer, ça va faire des catastrophes. Si ça se passe bien, ça va au contraire être extraordinairement producteur de richesses à partager, donc de bonheur. Il se trouve que ça va nécessiter beaucoup d'expertise, des compétences d'ingénieur, et que vous, ingénieur des ponts et chaussées, allez avoir forcément une carte importante à jouer dans ces développements urbains. Que ça soit ce qui va se passer en région parisienne, dans les 20 ans qui viennent, le Grand Paris, ça va être quelque chose d'extraordinaire autour de nous. Alors ça va être extraordinaire parce qu'il va y avoir des chantiers formidables. On va avoir, pour ceux qui aiment les infrastructures, je crois jusqu'à 12 ou 13 tunneliers en même temps en région parisienne. On n'en a jamais eu plus que 4 ou 5 dans toute la France réunie. Donc ça va être une période de très très grands travaux, passionnants pour ceux qui aiment la technique. Mais ça va aussi être une période de mutation, de changement drastique du fonctionnement économique de la région parisienne autour de nouveaux pôles que seront les gares du Grand Paris Express. Et je vous disais, ça va surtout être le développement urbain dans les pays en développement, dans les pays émergents, en Afrique en particulier. La ville, c'est un endroit extraordinaire. Elle est née pour permettre les échanges. C'est fait pour ça. Les premières villes de l'histoire, il y a quelques milliers d'années, elles étaient juste là comme comptoirs, lieux d'échanges commerciaux. Et puis à un moment donné, on s'est dit, ben, ce lieu d'échange commercial, il faudrait peut-être le structurer, le protéger. Et puis petit à petit, comme c'était là que se passaient les échanges économiques, c'est aussi là que s'est concentré le pouvoir. Et c'est devenu le lieu de décision, le lieu où s'implantait le dirigeant. C'est d'une complexité extrême. Un système de transport. Une gare, comme la gare du Nord, c'est des centaines de milliers de gens qui y passent tous les jours. Ça suppose rien que ça de gérer des flux qui sont compliqués à modéliser. Je discutais hier avec des élèves de deuxième année. On peut imaginer de modéliser ça comme un fluide, en mécanique des fluides. Ça marche un peu. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des enjeux de modélisation mathématique à l'intérieur d'une gare, rien que pour savoir comment se passent les flux de piétons, qui sont d'une complexité énorme et où on a besoin d'ingénieurs pour comprendre comment ça marche. En tout cas, essayer de comprendre comment ça marche. C'est aussi la combinaison de systèmes qui ne fonctionnent pas autrement que connectés les uns aux autres. C'est la logistique des déchets, c'est les mouvements des habitants dans la ville pour aller travailler, c'est l'approvisionnement des centres commerciaux, c'est les flux énergétiques, c'est la formation des prix immobiliers, parce qu'à un moment donné, tout ça se traduit par des valeurs immobilières. Donc on n'est pas en présence d'un objet compliqué, comme le pont de Normandie était ce qui me faisait rêver il y a 25 ans, on est en présence d'un système d'objets. Et ce système d'objets, il est encore plus complexe que ça, parce qu'en fait, chacun de ces objets ne se met pas complètement en équation. On est en présence d'abord de gens qui vivent dans les systèmes urbains. Ce n'est pas juste des choses qui se mettent en équation, c'est des gens, ce sont des gens. Et notre enjeu, c'est de réussir à influencer le fonctionnement de l'ensemble pour qu'ils soient un peu plus heureux dans leur système, dans cet ensemble. Je vais prendre un exemple tout bête, celui de la performance énergétique des bâtiments. Alors, je me suis occupé il y a une dizaine d'années du Grenelle de l'environnement et on a inventé des tas de choses, des normes techniques pour inventer l'immeuble bouteille thermos. Aujourd'hui, on est en train d'en revenir, mais j'ai participé à ce magnifique mouvement de performance thermique du bâtiment où finalement on s'est rendu compte que le truc qui isolait le mieux, c'était la bouteille thermos, et que si on pouvait faire une maison qui ressemblait à la bouteille thermos, on aurait une performance énergétique géniale. On s'est aperçu un peu après que du point de vue du confort et du bien-être des gens dans l'immeuble, c'était moins génial. Et puis, on s'est dit, tiens, on va quand même essayer d'avoir des immeubles à forte performance énergétique. On en a réussi un certain nombre, mais Derrière tout ça, la clé de la performance réelle en exploitation d'un immeuble, ça n'est pas seulement, c'est un peu, mais ça n'est pas seulement sa bonne conception. C'est la façon dont les gens qui sont dedans s'en servent. C'est tout con ce que je dis là. Enfin, si vous ouvrez la fenêtre en plein hiver en même temps que vous avez du chauffage, ça ne marche pas. Ça peut paraître idiot, sauf que l'enjeu de tout ça, c'est de réussir à influencer le comportement collectif des gens pour que ça marche. Et ça s'appréhende aussi de manière scientifique. Ça s'appréhende aussi avec des méthodes d'ingénieur, sauf que le sous-jacent, c'est quelque chose d'un peu plus sociologique. C'est une science humaine. Et c'est pas simple. Alors, le travail de l'ingénieur là-dedans, c'est bien sûr de s'intéresser à comment l'objet fonctionne, mais c'est aussi de se demander comment on met en place, on met en œuvre des méthodes rationnelles pour influencer le comportement des gens afin que ça marche bien. Et le but du jeu est restant que, au fond, on fabrique du bonheur. On n'est pas là pour être Big Brother. Alors, ça, c'est la première idée. Il va se passer des choses extraordinaires en ville. Il va y avoir énormément de défis sur des choses qui sont d'une complexité sans nom et qui ont absolument besoin de compétences d'ingénieurs et de compétences d'ingénieurs qui s'ouvrent à la compréhension de mécanismes profondément humains. Il y a une deuxième idée qui est assez formidable, et c'est aussi pour ça que vous êtes à l'orée, à l'aube d'une aventure extraordinaire, c'est qu'il va se passer une révolution technologique. Ce n'était pas le cas quand j'étais élève à l'école des ponts. Il y en a eu dans d'autres domaines. Mais dans le domaine urbain, on est à l'aube d'un changement extraordinaire. Ce changement extraordinaire vient, comme dans tous les domaines, de l'irruption des technologies d'information et de communication et du big data. On est sur le point de vivre des choses qu'on n'était pas capable d'imaginer il y a 20 ans. Les systèmes de transport automatisé, aujourd'hui, c'est une promesse qu'on peut faire, parce qu'effectivement, dans 10 ans, on saura le faire. Dans 10 ans, on peut très bien imaginer que les voitures sur le réseau routier d'Île-de-France, que ce soit des voitures électriques, non polluantes, sous pilote automatique, avec une amélioration de la capacité de débit des routes, pas d'accident, pas d'aléas, et au fond, la possibilité pour la personne dedans, dans cette voiture confortable, silencieuse, de faire autre chose que de se concentrer sur la conduite. Ça, quand j'étais élève à l'école des Ponts et Chaussées, je me souviens, j'étais allé chez Sagem, on m'avait montré un prototype en disant, c'est futuriste, un jour on pourra peut-être faire ça, mais bon, c'est vraiment les vues de l'esprit. Aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est à notre portée. C'est ce qui va arriver dans les 10-15 ans. Et ce que je vous dis là, c'est vrai pour l'ensemble des systèmes urbains. C'est vrai pour l'ensemble de ces systèmes urbains en interaction. Parce qu'on va être capable de mettre en place des capteurs dans la ville pour mesurer ce qui se passe en temps réel, collecter l'information en temps réel, l'exploiter en temps réel, on va être capable de vraiment influencer le fonctionnement de cet écosystème complexe. Et donc ça va être la rencontre entre une approche extrêmement scientiste, qui peut faire même un peu peur par moment, et ce que je vous disais à l'instant sur le fait que ce sont d'abord des systèmes humains et que de toute manière, si on n'est pas là, si on ne comprend pas comment les gens dans ce système réagissent, comment ils ressentent, parce que ça n'est pas du rationnel nécessairement, c'est souvent pas du rationnel, mais on se plante lamentablement et on fait des erreurs énormes. Si on n'est pas en train d'essayer d'appréhender avec toute la rationalité nécessaire des phénomènes qui sont profondément culturels, qui ont toute leur part d'émotion, on ne s'en sort pas. Si la ville n'est pas belle, on ne s'en sort pas. La ville a besoin d'être un système qui fonctionne bien, mais si on veut qu'il fonctionne bien, il faut qu'il soit beau. Si on veut qu'il fonctionne bien, il faut que les gens soient heureux d'y être, il faut qu'ils soient fiers d'y être. Et il se passe des choses assez extraordinaire. J'ai passé 6 ans et demi à m'occuper des quartiers les plus, pardonnez-moi l'expression, pourris de France, c'est-à-dire les plus dégradés, les plus paupérisées, où les gens étaient dans les situations les plus précaires. Je vais en citer un qui a connu une métamorphose en une quinzaine d'années. Le temps urbain, c'est une génération. Donc une métamorphose, pour le papillon, ça se fait assez vite. Pour la ville, c'est une génération. En une quinzaine d'années, le quartier du Noyer Doré à Antony est passé d'un endroit où personne ne voulait aller, qui faisait peur à tout le monde, à un endroit qui est parfaitement intégré dans le fonctionnement de la région parisienne aujourd'hui. Et alors un jour, j'ai discuté avec le principal du collège du Noyer Doré. Et le principal du collège, de ce collège m'a dit, vous savez, c'est quand même extraordinaire parce que grâce à ce qui a été fait sur l'amélioration du cadre urbain, et on ne voit pas d'autres raisons, mais mon taux de succès au brevet des collèges est passé de 50%, j'étais un des plus mauvais de l'académie, à 80%, je suis dans les bons. Et aujourd'hui, c'est effectivement des choses qui sont mesurables. On sait, par exemple, alors c'est très compliqué, mais on sait que si on améliore le chauffage dans un immeuble, dans un appartement, eh ben les résultats scolaires des gosses s'améliorent. Si on améliore le cadre urbain, on améliore le résultat scolaire. Alors, il y a un autre phénomène intéressant, justement, dans cette révolution qui est devant nous. C'est comme dans tous les autres domaines, je n'invente rien, celui de tout ce qu'Internet apporte. Internet, ça a quelque chose d'extraordinaire du point de vue social. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où il y avait énormément de livres. Il y avait des milliers de livres dans la bibliothèque de mes parents. J'étais extrêmement favorisé. Aujourd'hui, Internet, c'est un moyen d'accéder à la connaissance qui ne fait pas vraiment de différence sociale, qui ne fait pas vraiment de différence de milieu culturel. Les jeunes de milieux défavorisés, ils ont tout autant que les autres, aujourd'hui, ils sont tout autant entrés dans le monde informatique, dans le monde d'Internet. Il se trouve que nous allons travailler avec les élèves de deuxième année ce semestre sur un projet qui s'appelle celui de la ville apprenante de Mantes-la-Jolie, sur le quartier du Val-Fouré. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a l'idée que, y compris dans le fonctionnement urbain, c'est vrai dans plein de domaines, mais y compris dans le fonctionnement urbain, les systèmes connectés vont changer complètement la façon de vivre des gens, vont changer la façon d'apprendre. Mais ça va se passer en ville. On va voir émerger en ville, on voit déjà émerger des lieux de coworking, des lieux des tiers-lieux, comme on les appelle, qui sont en train d'inventer, je ne sais pas encore quoi. Ce qu'on sait, c'est que la ville ne fonctionne plus comme avant. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que vraiment, vous tombez à un bon moment. Vous tombez au moment où il y a des enjeux planétaires qui vont se jouer en ville. Où ce qui est à gérer en ville est d'une complexité incommensurable avec ce qu'on fait dans d'autres domaines. Et où en plus, vous allez vivre une révolution technologique comme on n'en a pas eu dans le passé. Alors, voilà, moi je crois que c'est assez simple. Ceux d'entre vous qui ont envie d'aventure, ceux d'entre vous qui ont envie aussi de vivre des choses de ce genre dès le passage à l'école, parce qu'on essaye de participer collectivement à des dynamiques intéressantes, eh bien, pas forcément en venant chez VET. Ça, on peut. Moi, j'ai pas fait VET, j'existais pas. Mais ce que j'ai envie de vous donner comme idée, avant toute chose, c'est que vous aurez des carrières formidables à conduire sur les questions urbaines, et qu'en particulier, quand vous vous lèverez le matin, vous n'aurez aucun doute sur l'utilité de ce que vous ferez pour la société. Je vous remercie. Je passe la parole à Anaëlle Lieberman, qui, entre-temps, est sortie des affres.
Bon, c'était la première diapo, mais bon, on m'a attendu pour présenter. Petite parenthèse pour présenter quand même l'ensemble de l'équipe. Vous avez entendu Pierre Salnave, qui est le président du département, qui Vous avez fait un brillant exposé sur les enjeux de ce département. Il y a aussi Laurence Dodin.
Bonsoir, Laurence Dodin, inspectrice des études du département. Donc, je serai là pour vous suivre, plus ou moins près.
Donc, je suis Samantha Kassibi, je suis rattachée au pôle de la direction de l'enseignement. Donc, pour le moment, je suis rattachée à VET, à TRAD, enfin au Master TRAD et au Master spécialisé FR. Voilà. Donc, je vous suivrai sur tout ce qui est administratif, si vous avez des conventions à faire et d'autres petites choses. Voilà.
Et puis Zainaba, qui est la paratrice, qui était malheureusement déjà partie. Pourquoi venir au département Ville Environnement Transport? Donc, plutôt que de vous donner tous les arguments, il y a plein d'étudiants qui sont venus aujourd'hui pour vous dire eux-mêmes, assez rapidement, pour quelles raisons ils ont choisi ce département et peut-être que vous vous reconnaîtrez parmi ces différents avis. Donc, je les invite à venir me rejoindre maintenant. Alors, ils sont venus en nombre. Il paraît que... On m'a dit qu'il y avait une idée préconçue comme quoi il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui étaient au département VET. Alors, ils ne sont pas tous là, hein, je vous rassure. Mes résultats, ils sont quand même venus en nombre et ils sont très motivés pour parler du département. Donc, je leur laisse la parole.
Donc, moi, je suis Romain, je suis en transport. Et j'ai longuement hésité entre SGEF et enfin, SEGF et VET. Et j'ai choisi VET parce que je me suis dit qu'on pourrait prendre des cours de SEGF ou même avoir un parcours plus économique en faisant VET que en faisant SEGF et en ayant des éléments VET. Donc je me disais que c'était plus utile de faire VET que de faire SEGF.
Donc bonjour Marion, moi je suis en VET-JI, donc les parcours croisés. Et je suis venue en VET parce que du coup, c'était vraiment l'opportunité d'avoir un parcours qui était personnalisé, puisque j'ai choisi tous les cours que j'ai pris, et qui soit à la fois pluridisciplinaire, vu que j'ai moitié-moitié VET et GI.
Bonjour, je suis Kalita, je suis brésilienne, donc en fait, j'ai fait les deux diplômes ici. Et tout d'abord, quand je suis entrée à mon université au Brésil, je me suis tombée à la problématique de comment faire développer les villes de manière soutenable et tout ça, avec une approche plus humanitaire. Et donc, j'avais deux options. Je suis au VET et je savais que c'était le seul département qui pourrait m'offrir ça, c'était le VET. Donc, je suis dans le premier aménagement.
Moi, je suis Néo, je suis espagnole. Je suis en transport. Et en gros, je suis en transport parce que c'est un peu le rapport entre la génie civile, c'est la partie ville de la génie civile pour moi. Alors, je vois que c'est une chose intéressante. Ce n'est pas un bon exemple peut-être pour vous, mais c'est juste pour faire savoir aux gens qui hésitent à faire la génie civile que c'est aussi une option très intéressante.
Bonjour, moi je suis Océane, je suis en VET-GCC, donc l'autre parcours croisé possible. Et j'ai choisi VET-GCC parce que enfin, c'est un moyen de voir la ville de deux manières différentes, mais totalement complémentaires, que je trouve vraiment très intéressant. Ouais.
Bonjour Eric, donc moi je suis en transport. J'ai choisi VET parce que c'était un peu... Enfin, j'ai longuement hésité entre GCC et VET, comme pas mal de gens. J'ai choisi VET parce que je trouvais que c'était le département où on avait une vision la plus globale et on pouvait toucher à beaucoup de sujets très différents, soit techniques ou plutôt sociaux. Donc c'est un truc qui me plaît donc, et j'adore ce que je fais actuellement.
Moi, je suis Dan, je suis en environnement. J'ai choisi environnement parce que l'environnement, ça devient de plus en plus important. Et aussi, c'est un sujet indéfini. Du coup, il y a plein de discussions ouvertes encore et ça m'intéresse.
Salut, je suis Stefania, je suis italienne. J'ai choisi environnement un peu pour suivre mon parcours que j'avais déjà commencé en Italie, mais surtout parce qu'on est habitué à mettre l'homme au centre de nos intérêts. Et il faut s'habituer à mettre l'environnement au centre.
Adrien, donc j'avais hésité entre SEGF et VET parce que je voulais devenir acteur de la ville. Et en fait, donc après une réflexion assez poussée, je me suis dit que c'était mieux d'aller en VET. Je vous expliquerai après pourquoi, je crois. Donc je ne vais pas plus développer maintenant.
Bonjour, donc moi c'est Lucas, j'ai choisi aménagement pour principalement travailler sur des projets urbains qui allient à la fois des aspects techniques mais aussi des enjeux socio-économiques.
Bonjour, moi c'est Ivan, je suis argentin et je choisis transport puisque c'est la base de tout ce qu'on fait. Donc, si tu veux aller de A à B, tu passes par un transport. Et du coup, je voulais me baser là.
Moi, c'est Jeanne, donc je suis en aménagement. Je suis allée en VET parce que, ça va être très cliché de dire ça, mais ça correspondait pas mal à mes valeurs, notamment sur la place de l'environnement et le fait qu'il fallait que ça soit au centre de nos préoccupations et de nos modes de fonctionnement. Et je voulais aussi arrêter les sciences très dures. Non, pas... les choix que j'ai faits dans la filière VET m'ont permis un peu de bifurquer.
Bonjour, donc, Pierre-Guillaume en environnement. Moi, ça faisait longtemps que je sais que je voulais travailler dans l'environnement et je n'étais pas en première année au pont. Et du coup, l'intérêt du parcours VET par rapport à d'autres écoles ou d'autres masters que j'avais vus, c'est qu'on n'est pas focalisé sur une seule technique ou un seul type de technologie. Et en fait, ça croise beaucoup plus les domaines, en particulier ici avec les côtés un peu aménagement. Et du coup, je pensais que pour prendre des bonnes décisions, il faut quand même avoir une vision plus systémique des problèmes.
Alors, dans le département, en fait, il y a un certain nombre de cours. Alors, la stratégie du département, c'est d'adopter une pédagogie innovante qui repose certes sur des cours où vous serez en amphi, vous allez écouter comme aujourd'hui, mais pas seulement. Voilà. Il y a aussi des semaines d'ouverture où là vous êtes plus en mode sous tension sur une problématique, un sujet, et c'est pas du tout c'est pas des semaines où vous allez être toute la semaine en amphi à entendre parler de choses. Non, vous allez être en action, vous allez être acteur. Mais je ne vais pas développer plus puisque tous ces élèves vont vous raconter ça plus en détail. Il y a aussi des voies d'approfondissement, donc là c'est plutôt en troisième année. Donc c'est aussi du travail en mode projet de manière très appliquée et sur un temps relativement conséquent dans la semaine. Et enfin, ça s'insère dans les différentes modalités que je viens d'évoquer. Il y a un certain nombre de modules sur lesquels on vous fait travailler à commande réelle, c'est-à-dire avec des partenaires, que ce soit des industriels, que ce soit des collectivités, avec une commande réelle. Pierre Salnave évoquait tout à l'heure le sujet sur lequel on fait travailler les étudiants cette année sur la ville apprenante. C'est une commande réelle de la ville de Mantes-la-Jolie. Donc qui compte sur les étudiants pour trouver des solutions à sa démarche. Et donc, c'est pas un sujet académique, c'est vraiment une commande réelle, comme si vous étiez consultant. Alors, VET, il y a trois lettres, donc trois filières, hein, ville, aménagement, donc. E comme environnement, et T comme transport. Alors, trois filières, mais par contre, en réalité, il y a une quarantaine d'élèves cette année en deuxième année, il y a à peu près 40 parcours différents. Parce que c'est un peu la spécificité du département, c'est qu'on vous accompagne par rapport à votre projet personnel, et vous allez choisir dans une base de cours obligatoires et puis d'électifs. Et puis même, on a des petites... excentricités avec des parcours croisés qu'on a mis en place depuis cette année, d'autres qu'on a vocation à mettre en place les années qui viennent. Et en gros, à chaque fois, on s'arrange pour coller au mieux à vos aspirations personnelles. Donc, quelque part, il n'y a quasiment aucun étudiant chez nous qui a le même emploi du temps que son voisin. Donc plutôt que de vous faire une liste à la Prévert des cours de ces trois filières, puisque je me suis dit qu'à votre place, ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait. Et puis, accessoirement, si vous voulez avoir l'info, je crois que sur Internet, sur le site de l'école, vous pouvez accéder à tout le catalogue des cours. Je me suis dit que c'était plus intéressant d'avoir des illustrations réelles des différents élèves. Et ils vont chacun dans chaque filière, vous exposer un petit peu le cours qui, pour eux, est emblématique de leur filière et éventuellement le projet ou la semaine d'ouverture spécifique.
Donc pour la filière aménagement, donc voilà, comme l'a dit Monsieur Salvenave, on est en train de créer la ville. Aujourd'hui, effectivement, moi j'ai choisi donc VET parce que d'ici 2050, le nombre de villes va doubler dans le monde. Et donc il y a un enjeu énergétique et écologique qui est énorme. Si on continue de construire les villes aujourd'hui telles qu'on les construit actuellement, on va dépenser la moitié de ce qu'on peut polluer et émettre si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc il va falloir construire la ville autrement. Il va falloir la repenser avec Monsieur Picon a dû vous parler de Smart City. Donc vous connaissez donc tout ce qui est cette révolution numérique, cette révolution d'usage. Et donc pour ça, c'est un système. Les villes, donc elles sont à réinventer, elles sont sujettes à des révolutions. Et c'est également un système complexe. Et c'est pour ça que les cours, on fait en tout cas, spécialement en filière aménagement, visent à vous donner une culture générale sur la ville, à vous donner par exemple un aperçu des secteurs et des problématiques et des enjeux qui irriguent et qui parcourent cette ville. Par exemple, la problématique du foncier qui est comment une ville, comment une commune peut acquérir du foncier pour pouvoir après réaliser un équipement public afin d'attirer des personnes, d'attirer des gens dans les villes. Voilà, donc on va un peu plus détailler, je crois, avec Jeanne et Lucas après, et Calita.
Donc moi aussi, je suis en aménagement avec les trois là. Adrien, il a souligné l'importance de la ville. Bon, d'ailleurs, notre choix, il s'appelle ville. Moi, à la base, je voulais faire de l'aménagement rural, ce qui est moins développé, on va dire. Mais néanmoins, comme l'a dit Adrien, on acquiert avec ce département et les cours qu'on a des billes en fait pour développer ensuite plein de réflexions, pour aller chercher des informations qu'on n'avait pas forcément. Et on a une très très grande ouverture aussi du fait des nombreuses nationalités qui sont présentes dans cette filière. Enfin, il suffit de regarder là. Du coup, tout le monde ramène un peu son expérience, ramène les cours qu'ils ont eu avant, les cursus qu'ils ont fait dans leur pays d'origine. Et enfin, tout ça, ça fait que quand on travaille en projet, ce qui est souvent le cas, chacun ramène un peu sa pièce, sa vision de la chose, ce qu'on fait chez lui, ce qu'il a appris ailleurs. Et moi, c'est aussi, en gros, enfin, c'est grandement pour ça que je suis venue dans VT, parce que ça, enfin. Il y a une ouverture derrière qui est juste géniale en fait.
Sinon, j'ai rajouté un petit mot sur les cours. Donc, au niveau des cours, un cours qui nous a bien plu au sein de la filière aménagement, c'était le cours de projet urbain territorial. Donc, c'est un cours qui est en partenariat avec l'école d'archi et donc qui permettait de travailler avec des personnes qui ont des visions très différentes et qui ont des méthodologies de travail très différentes. Et l'approche de la ville est différente du côté architecte que du côté ingénieur. Donc, du coup, c'était très enrichissant. Et en début d'année, on avait aussi eu une semaine d'ouverture aménagement qui permettait de découvrir un peu tous les métiers de l'aménagement et les différentes problématiques qui étaient en jeu en travaillant sur différents projets, par exemple la ZAC à Clichy-Batignolles. Et donc, ça permettait d'avoir un bon point d'ancrage dans le domaine de la ville. C'était très intéressant.
Alors moi je vous présente la filière environnement. Je ne sais pas c'est quoi votre idée d'environnement. Vous pensez peut-être que c'est un parcours un peu d'étudier les arbres, mais en vrai c'est vraiment on a une base solide de mécanique. On étudie la mécanique des fluides, on s'occupe moi, ce qui m'intéresse de plus, c'est les domaines de l'eau. Et du coup, on se coupe vraiment de les problématiques liées à les désastres environnementaux, comme les inondations, les crues. On voulait vous parler de cours qui caractérisent cette filière. Le premier, c'est hydrologie.
Oui, donc on avait eu un cours d'hydrologie qui était plutôt pas mal. Alors en fait, c'était un peu une introduction pour comprendre tous les phénomènes de ruissellement, mais aussi de circulation d'eau souterraine. Et alors, du coup, au niveau de ce qu'on faisait concrètement, c'était surtout de la modélisation et de la simulation du coup, des flux sur ordinateur. Donc, soit par des modèles de probabilité classique ou alors par des modèles de probabilité bayésienne. Je ne sais pas trop si on voit ça en première année, mais bon. En tout cas, du coup, pour ceux qui aiment bien la partie un peu programmation, ça, c'était quand même un cours vraiment intéressant. Et un autre cours qu'on avait bien aimé, nous, c'était aussi le cours. Alors, c'était encore le cours de politique de l'eau. Donc, du coup, si jamais vous pouvez le prendre, d'ailleurs, je vous le conseille. Alors, en fait, dans ce cours, ce qui était intéressant, c'est que c'était une chercheuse en politique qui nous faisait le cours. Du coup, c'était assez éloigné des questions qu'on se pose d'habitude. Mais finalement, ce qui est pas mal, c'est qu'on enfin, on se rend compte qu'évidemment, on travaille pour nous, mais on travaille aussi globalement pour la communauté, pour les gens. Et en fait, ce cours était intéressant parce qu'il nous permettait de confronter finalement tous les conflits d'intérêts et tous les enjeux qui sont liés à une décision. Parce qu'en général, on s'aperçoit que la meilleure décision pour nous, en tant qu'ingénieur, ce n'est pas du tout la décision qui va être privilégiée plus tard. Et du coup, ce cours, en plus, c'était que quelques séances et c'était une bonne ouverture là-dessus.
La semaine dernière, on a eu la possibilité d'apprendre quelques notions des bases de gestion des crises. Et pour nous, c'était important, surtout par rapport aux inondations, parce qu'en vrai, on ne peut pas vraiment imaginer ce qu'il y a derrière ces situations critiques. Et c'était du coup intéressant voir comme les différents acteurs derrière une situation vraiment dramatique et imprévisible. Et là, on a plutôt fait une simulation on a su faire une simulation d'attentat, mais quand même, on a pu voir un peu une situation de.
En gros, pendant une semaine, ils ont été plongés dans la situation de la gestion de crise, avec une partie de cours magistraux, et puis après une partie où ils ont dû rédiger, par groupe, un scénario de crise. Et l'autre groupe allait le jouer. Donc, il y a Jeanne là-bas qui s'est retrouvée en préfète, Dan chargé de la communication. Enfin voilà, par exemple, ils avaient tous des rôles, l'un qui était journaliste, etc. Et ils ont dû se mettre dans la peau de ces différents acteurs et gérer la crise. Bon, là, en l'occurrence, c'était des situations qui n'étaient pas forcément en lien direct avec l'environnement. Puisque c'était effectivement des attentats dans le métro ou au Louvre. Mais quelque part, c'était une mise en situation sur des sujets qui pourraient très bien être pour des situations critiques liées à l'environnement, une crue de la Seine subite, etc.
Mais du coup, voilà, ce que Stéphanie avait dit, c'est assez important. Si vous demandez en environnement, du coup, nous, on n'est pas axé sur la protection des espèces ou de l'environnement pour lui-même. Mais ça reste vraiment en lien avec l'aménagement et le transport. Donc en fait, c'est surtout sur des questions de dimensionnement en fait, qu'utilisent des ressources naturelles, donc typiquement dimensionnement de barrage, par rapport à un fleuve, ou alors des prédictions en météorologie, des circuits aériens, enfin, ça des flux aériens. Donc voilà. Mais après, je pense que pour ceux qui veulent faire du vrai environnement pour lui-même, bon, moi je sais que c'est mon cas, et bon, je pense qu'il y a aussi moyen de faire ça tout à fait. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des études d'impact sur des projets d'aménagement futurs.
Ouais, comme vous avez entendu, c'est, l'environnement, ça varie de géopolitique avec technique de l'eau jusqu'à gestion de crise qui est vraiment très directe et très concrète. Oui, c'est ça. Merci.
Bon, du coup, on va parler un peu de faire transport. On va être un peu moins long, je pense. Bon, déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette filière-là? Déjà, je me suis dit, c'est un peu valable pour tout le département. Quand on est en VET, dans les domaines de l'aménagement et des transports en France, l'école des ponts, c'est le top profil. C'est comme en génie civil, il n'y a pas de meilleur profil que vous sur le marché du travail. Donc déjà, c'est un peu une raison aussi de prendre le département VET. Et pourquoi transport? Je me suis dit, transport, c'est peut-être un peu la filière la plus appliquée, mais en fait, pas du tout. On pense transport, on pense forcément au départ au transport urbain, transport interurbain, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Ça s'intéresse aux mobilités de façon générale, que ce soit le transport de marchandises, le transport aérien, et puis beaucoup plus. Et puis, on vous le dira après. Donc, pourquoi transport? Donc, en transport, donc les cours qui m'ont le plus plu, globalement, et je pense que c'est le cas pour mes camarades aussi. Donc, le cours d'ingénierie du trafic, le nom ne fait pas très rêver, mais Honnêtement, je pense que c'est le meilleur cours de VET Transport. Je pense. Pourquoi c'est un bon cours? Parce que c'est un cours qui est un peu technique, mais vous aurez dès la fin du cours tout ce qu'il faut pour travailler en exploitation. Vous êtes disponible. Enfin, le prof est très, 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 très bon. Je ne sais pas s'il va changer, mais on ne sait pas. donc voilà, le cours d'ingénierie du trafic, le cours de Mazid, qui est un cours assez particulier, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce cours, c'est la partie où on va. Mazid, c'est méthode d'analyse des systèmes territoriaux, grand nom comme ça. Et en gros, on fait des simulations de trafic globalement. On fait des simulations de trafic, de transport urbain, et on a travaillé sur des sujets assez concrets qui étaient le Grand Paris. Donc nous avons modifié le schéma du Grand Paris. Et on a essayé d'implémenter sur un logiciel assez compliqué quels sont les changements qui vont se passer. Et c'est vraiment un cours qui va vraiment au fond des choses. Et je pense que, enfin, à chaque fois qu'on faisait de la recherche documentaire sur ces sujets-là, on tombait sur notre cours. Donc. Non, mais enfin, je voulais dire aussi, enfin, qu'est-ce qu'on fait en sortant de VET Transport? Donc globalement, on travaille soit dans des bureaux d'études techniques, je ne sais pas si vous connaissez un peu, donc Ingerob, Sistra, ce genre de choses, soit en exploitation, donc les SNCF, la RATP, les concessionnaires d'autoroutes, Vinci Autoroutes, Vinci Airport. Où on peut travailler dans l'économie des transports, le financement d'infra. C'est ce que pas mal de gens ont fait en stage. Je ne sais pas s'il y en a ici qui l'ont fait, mais en gros, on peut faire beaucoup de choses variées, que ce soit travailler sur l'objet technique et le système de transport, que ce soit travailler sur son fonctionnement économique, son financement, et d'autres sujets. Ah oui, la semaine passée, on a fait. Donc, eux ont fait gestion de crise, enfin, une grande partie. Nous, on a fait une semaine gare, on était dans les. Pardon ? Enfin, je ne sais pas, ils étaient là avant gare, bref. En semaine gare, ce qu'on a fait, on a travaillé en gros sur la gare de Lyon et son interaction et son quartier globalement. Donc, on était dans les quartiers de la, enfin, dans les locaux de la SNCF, pas ceux à Saint-Denis, mais ceux de leur filiale d'archi à REP, sur les très beaux locaux. Donc, on a travaillé vraiment dans des conditions pro et il y avait deux sujets, un sujet assez technique sur comment est-ce que les flux se déplacent dans la gare de Lyon, donc avec un peu de modélisation. Et un deuxième sujet un peu plus aménagement qui était comment est-ce qu'on fait interagir la gare avec la rue et les quartiers environnants. Et on était à la fin, on a dû soutenir devant des gens de la boîte, des gens bien placés qui veulent vous recruter. Et c'était un sujet, enfin c'était une semaine assez intéressante et le fait de travailler en temps court avec une commande réelle, c'était assez intéressant.
Comme je le disais tout à l'heure, il y a trois filières, on va dire, historiques. Et depuis l'an dernier, on fait tellement des parcours personnalisés qu'on fait des parcours croisés avec d'autres départements. Donc, il y a deux exemples, Océane et Marion, qui sont venus témoigner de leur parcours croisé. C'est un peu des pilotes, puisque c'est les premières, les premières à se lancer là-dessus. Et il y en a un troisième qui n'est pas représenté aujourd'hui, parce que tout simplement, on vient de le mouliner. Et donc, peut-être ce sera vous. On ne sait pas, l'année prochaine, VET IMI, sur les transports intelligents. Donc, tout ce qui est mobilité, transport et système informatique, modélisation.
Ok, donc je vais présenter le parcours VET GCC. Donc, c'est un peu plus centré sur les infrastructures de transport. Donc, il y a quand même pas mal de génie civil, pas mal de mécanique, donc, pour ceux qui aiment ça ou pas. Et donc, en fait, pour donner un exemple de cours, j'ai de la mécanique des structures, de la mécanique des poutres, de ce côté-là de GCC. Mais par contre, de l'autre côté, j'ai quand même les obligatoires de transport comme ingénierie du trafic ou méthode d'analyse des systèmes territoriaux. Et en fait, ce qui était très bien, c'est que j'ai pu choisir mes cours. J'ai pu dire ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas, ça c'est un obligatoire, je sais, mais j'aimerais plutôt avoir l'autre. Et vraiment, je pouvais faire un parcours à ma sauce. Et c'était vraiment ce que j'aimais beaucoup. Donc, ce que j'aime bien aussi dans le fait de croiser ces deux départements, c'est que j'ai l'impression d'avoir acquis des connaissances dans un peu plein de domaines. Par exemple, en mécanique des sols et des roches, on apprend à étudier le sol, à voir comment on peut mettre des fondations, quel type de fondations, comment les dimensionner. Et donc ça, c'est plutôt une approche très proche. Et par contre, en méthode d'analyse des systèmes territoriaux, on faisait des cartes sur toute l'île de France avec le Grand Paris. Donc c'était beaucoup plus global. Et cette manière de voir les choses de la petite échelle à la grande échelle, c'est ça que j'aime beaucoup dans mon parcours. Ouais.
Donc, comme Océane, je suis un parcours croisé. Donc, moi, je me suis proposée pour tester le parcours croisé VETJI. Donc, je pense que c'est assez facile de voir tous les enjeux qui se cachent derrière un parcours comme ça, puisque quand on parle de ville en 2050, si jamais il y a la logistique qui ne suit pas dans la ville, comment est-ce qu'on fait ? Ça peut être la gestion des déchets, ça peut être approvisionner tous les magasins. Enfin, il y a vraiment énormément d'enjeux qui se retrouvent, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Amazon Prime Now, qui fait de la livraison à une heure dans les grandes villes. C'est un enjeu logistique qui est énorme et il se repose sur des systèmes de transport qui doivent être performants, qui doivent être là. Et donc, je pense que croiser les deux, ça faisait vraiment sens. Officiellement, je suis en VET aménagement. En pratique, je suis en VET transport. Enfin, concrètement, j'ai quasiment, au premier semestre, j'ai suivi les mêmes cours que tous les VET transport. Et au deuxième semestre, j'ai plus des cours de GI, donc de la stratégie d'entreprise ou de l'ingénierie d'infrastructures logistiques. Donc, par exemple, au premier semestre, j'avais le cours de recherche opérationnelle, qui est aussi obligatoire en VET transport d'ailleurs, qui permettait vraiment de voir comment mettre des maths derrière, si vous aimez les maths, comment mettre des maths derrière toutes ces problématiques de logistique, puisque c'est quand même, on ne décide pas n'importe comment où mettre un entrepôt, il y a des façons de le résoudre pour que ce soit un positionnement à peu près optimal. Et au deuxième semestre, je suis un cours d'ingénierie des infrastructures logistiques, par exemple, et je pense que c'est vraiment très intéressant parce que ça fait vraiment bien la jonction entre les deux départements. Donc, par exemple, la semaine dernière, on nous a demandé de dimensionner, en une semaine, un aéroport, ce qui est vraiment pas facile, parce qu'une fois qu'on commence à voir les enjeux, l'aéroport, on ne peut pas le dimensionner tout seul, il faut aussi pouvoir y accéder. Donc, comment y accéder, c'est vraiment des enjeux qui se retrouvent plus en VET, du coup. Donc, je pense que c'est vraiment un parcours qui est très intéressant. Donc, si vous avez des questions au niveau des cours, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment vous qui allez pouvoir choisir vos cours.
Dernière chose avant de passer la parole aux opérationnels qui sont venus nous rejoindre et prêter main forte aux élèves aujourd'hui. Juste un petit point, tout à l'heure j'ai parlé rapidement du projet de département qui a lieu au deuxième semestre de deuxième année. Donc depuis l'an dernier, c'est un projet qui est basé sur la démarche du design thinking qui est porté par la D-School Paris qui est de l'autre côté du campus. C'est en gros, vous avez un projet qui est à commande réelle. Donc là, cette année, on parlait du Val-Fouré, de Mantes-la-Jolie, et du concept de la ville apprenante sur des sujets qui portent à la fois sur la propreté, sur la concertation publique ou sur l'accès à la connaissance. Dans le cadre de ce projet, on vous accompagne pour apprendre la démarche du design thinking, mais aussi pour en mettre plein la vue. Donc eux, ils l'ont pas encore fait, donc c'est pour ça que peut-être que vous trouverez peut-être des choses à redire sur leur présentation aujourd'hui, mais à la fin du semestre, ce sera tous des bêtes de scène parce qu'ils auront été accompagnés pour faire des super PowerPoint, pour faire des super présentations. Donc ça fait aussi partie du jeu. Je laisse la parole à Damien, Thibault, Manuel et Étienne.
Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Thibault Alain, je suis VET 2015 dans la filière transport. Quand on nous a proposé de venir ici partager notre expérience avec vous, moi j'ai accepté vraiment avec plaisir, c'est un département qui me tient à cœur, même si c'est impliqué de revenir à Champs-sur-Marne. Et du coup, je vais déjà rebondir un peu sur quelques points que vous avez entendus jusqu'ici. Donc pourquoi VET ? C'est une question que je me suis posée forcément. C'est une question que j'ai posée aussi à certains anciens qui ne sont pas venus aujourd'hui. Et globalement, il y a plusieurs points qui ressortent. Déjà, comme vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, c'est un département qui traite des problématiques d'aujourd'hui, du 21e siècle. C'est aussi un département qui va vous permettre, qui va vous donner accès à des professions qui sont en lien avec des personnes qui n'auront pas fait la même chose que vous. Vous serez en lien avec des architectes, avec des urbanistes, avec des personnes qui ont refait du génie civil. Vous allez être en lien avec beaucoup de personnes et ce qu'on va vous apprendre pendant VET, c'est d'avoir les clés de lecture pour discuter avec ces personnes-là. C'est des compétences qui sont super intéressantes et que vous n'aurez pas sur d'autres départements au pont. Et le dernier point, et c'est ça qui est important, Et Jeanne, je me tourne vers toi. Il ne faut pas avoir peur de dire, comme tu l'as dit, de dire des choses bateau, de parler de ses valeurs, parce que vraiment, ce qui ressort dans les réponses que j'ai eues, c'est que le département VET, c'est un département qui est constitué de personnes qui ont des convictions sincères, qui sont intéressées par toutes les problématiques d'aujourd'hui, qui sont intéressées par en faire partie, par les résoudre. Et le département VET, c'est vraiment un département qui arrive à se mettre, à se positionner à la croisée de l'ingénierie et de matières beaucoup plus sociales. Vous allez changer le quotidien des personnes, mais vous allez aussi changer votre quotidien. Si vous améliorez le fonctionnement du RER A, bah, ça vous touchera aussi également. Donc simplement sur l'emploi du temps, vous l'avez aussi beaucoup entendu et Romain le mentionnait, l'emploi du temps VET est très flexible dans le sens où vous allez pouvoir vous faire un parcours vraiment à la carte, prendre des cours de VET certes, mais aussi prendre des cours d'autres départements, d'autres filières de VET. Et c'est ça qui est vraiment très agréable. Et en VET, vous avez trois filières. Donc, vous avez des cours avec peu de personnes, parce qu'il y a quand même un éclatement entre les trois filières différentes, ce qui rend les cours beaucoup plus interactifs. Vous avez des profs qui sont très accessibles, parce que c'est des petits groupes d'élèves. Les profs, vous les connaissez, vous les voyez souvent. Vous avez des projets qui sont relativement longs, vous apprenez à les connaître. Et inversement, c'est vraiment un point qui est important sur l'emploi du temps. Et au niveau des cours de deuxième année, vous avez pu en entendre parler par les témoignages précédents. Les cours en troisième année, donc je vais simplement vous présenter la troisième année au pont que j'ai faite. Les autres types de troisième année seront présentés par la suite. La troisième année au pont est super intéressante en VET parce que ça vous donne vraiment un esprit critique sur tout ce que vous aurez appris en deuxième année. En deuxième année, on va vous apprendre à utiliser des modèles pour simuler des transports, etc. En troisième année, on va vous dire, bah, ok, vous avez vu ces modèles, bah, voilà toutes les limites de ces modèles, voilà tous les biais de fonctionnement de ces modèles, et voilà pourquoi vous devez faire attention quand vous utilisez un modèle comme ça. Et cet esprit critique que vous allez développer en troisième année, c'est un vrai plus quand vous rentrez dans la vie professionnelle. Si on parle de vie professionnelle maintenant, il y a énormément de sujets, quand j'ai posé la question aux anciens VET, il y a vraiment des sujets complètement différents. Il y en a qui ont travaillé dans l'éolien, il y en a qui ont travaillé dans le biogaz, il y en a qui ont travaillé dans le solaire, il y en a qui ont travaillé sur les marchés immobiliers, il y en a qui ont travaillé sur les transports ferroviaires, d'autres sur les transports routiers. Vous avez vraiment une multitude de choix possibles en sortant de VET sur les choses que vous pourrez faire au jour le jour. En plus de ça, sur ces différents éléments, souvent, ce que VET vous offre, c'est de pouvoir vous positionner sur des fonctions qui vont être en amont de toutes les réflexions un peu plus techniques qui vont pouvoir avoir lieu. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les mains dans le cambouis au jour le jour. Alors, c'est peut-être là-dessus, et je ne sais pas si certains d'entre vous ont cette vision-là, et Damien reviendra dessus, c'est peut-être là-dessus que certaines personnes vous diront que le département VET est moins technique que d'autres, dans le sens où vous ferez moins d'équations, mais c'est simplement parce que la difficulté que vous aurez à traiter, elle est placée à un autre endroit. Elle est placée sur des éléments beaucoup plus sociaux, sur des éléments qui sont différents, effectivement, de tout ce que vous avez pu voir en prépa, par exemple, pour ceux qui ont fait une prépa. Mais vous avez des éléments de complexité qui sont différents et que vous allez apprendre à maîtriser au fur et à mesure de votre cursus VET. Maintenant, pour revenir un peu sur les différents débouchés et ce que vous pourrez faire au jour le jour en VET, on peut faire des choses très différentes. Eric, tout à l'heure, tu disais qu'on finit globalement soit en bureau d'études, soit en exploitation, mais tu as donné beaucoup d'exemples qui sont vraiment très différents. Moi, aujourd'hui, je suis consultant. Je suis passé à la SNCF sur un sujet très spécifique de définir un nouvel indicateur de congestion des gares. Ensuite, je suis allé faire 6 mois à Tokyo dans un laboratoire de recherche sur un sujet encore plus spécifique. Et là, aujourd'hui, je me retrouve consultant, donc sur des sujets beaucoup plus différents, beaucoup moins spécifique, mais l'expérience que vous avez en VET est très valorisable auprès d'entreprises comme la SNCF, comme la Poste qui a des soucis logistiques, donc je pense au VETGI notamment, sur énormément d'entreprises et sur des sujets qui sont très divers. Par exemple, la SNCF peut décider de mettre en place une application et qui de mieux qu'une personne qui a suivi le cursus VET peut être capable de comprendre les enjeux pour le client, l'utilisateur final de l'application, et les enjeux pour la SNCF, qu'est-ce qui est important de recueillir comme information sur les clients, comme information sur les déplacements pour améliorer son application, le fonctionnement de son application. Donc vraiment, vous avez des débouchés qui sont divers et vous ne vous ennuierez pas si vous faites VET, en sortant de VET. Et donc pour finir sur les débouchés, toutes les personnes de VET que j'ai pu contacter avant de venir ici m'ont dit qu'elles avaient vraiment le sentiment qu'il y avait énormément de choses à faire, différentes. Vous pouvez jouer entre le public et le privé. Il y a beaucoup d'entreprises différentes dans l'organisation de l'entreprise. Vous avez beaucoup de sujets variés que vous pouvez traiter. C'est vraiment un plus une fois sorti de VET. Et Manu reviendra dessus, mais on connaît beaucoup de personnes qui nous ont dit aujourd'hui, des personnes qui ont fait génie civil, des personnes qui ont fait SEGF, qui nous disent aujourd'hui qu'ils travaillent sur des sujets purement VET et qui regrettent de ne pas avoir fait VET. Et je terminerai là-dessus. Merci.
Bonjour. Bon, il nous a mis un peu la pression hein, parce que cette présentation était plutôt complète et plutôt claire. Moi, j'ai juste une petite question avant de continuer. Parmi vous, qui, en entrant au pont, se disait VET, c'est quelque chose qui peut m'intéresser? Ben, je pense que vous tous, venez discuter avec nous à la fin, venez présenter un peu ce que vous avez à dire, parce que je pense que c'est vraiment les anciens et puis les gens qui sont actuellement ici qui pourront le mieux vous apprendre et vous dire ce qu'on y fait, et pour que vous ne soyez pas déçus, parce que franchement, moi, ce que j'en retiens, c'est que ça permet d'avoir une culture globale sur toutes ces problématiques qui sont non négligeables, comme Thibaut disait. Moi, j'ai plein de camarades de ma promo qui font des problématiques en lien avec VET et puis ils commencent à me parler et puis on en discute et ils s'aperçoivent que ben, ce qu'ils font en entreprise, c'est là, et ce qu'on apprend en département VET, c'est là, quoi. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vision, de développer, de savoir où est-ce qu'on veut aller sur des problématiques extrêmement, extrêmement complexes. Voilà, ça, c'est vraiment les sujets que je ne vais pas faire beaucoup plus long. Après, juste pour vous dire le parcours que j'ai fait donc VET environnement et en 3A, je suis revenu, donc j'ai fait la 2A classique. Je suis parti un an au Pérou sur un chantier d'eau potable. Ensuite, je suis revenu à Paris pour faire les stages lourds, les projets lourds, un cours sur l'éco-conception ville durable qui était vraiment, enfin moi j'en garde un excellent souvenir avec un projet qu'on a fait avec la chaire éco-conception Vinci. Avec les cours justement sur les modèles, sur l'analyse de données, sur remettre un peu en cause tout ce qu'on a appris pour voir les limites et les développements. Franchement, moi j'en garde un souvenir super avec les profs quand on revient de 3A, enfin quand on revient en 3A, qui l'approche est complètement différente. Vraiment, si c'est ces sujets qui vous intéressent, allez-y parce que vous serez vraiment pas déçus. Ah oui, non, j'ai fini mon projet de fin d'études à Veolia à Londres. Et puis là, j'ai accueilli quelques stagiaires, stages ouvriers sur les chantiers. Et on en reprendra à l'avenir. Voilà, je passe là.
Bonsoir. Alors, moi, je suis Damien, je suis en deuxième année. Je suis entre ma deuxième et ma troisième année. Et donc, je suis en césure. J'ai fait 6 mois de stage dans une grande boîte privée, j'étais chez Bouygues dans la filiale de développement immobilier, et là je fais actuellement depuis janvier un stage dans une collectivité territoriale dans le côté public. Et donc en 9 mois, je ne vais pas avoir le temps de vous décrire toutes mes missions que j'ai eu à faire, simplement moi j'ai pris la filiale VET Aménagement, et en VET Aménagement, ça a été dit notamment par Adrien qui a souligné le fait qu'on fait la ville de demain. C'est vrai au sens littéral, c'est-à-dire qu'un de mes projets sur lequel j'ai travaillé sur mon stage précédent et sur lequel je continue de travailler, c'est on nous donne un terrain qui peut être plus ou moins grand, qui représentait pour moi 4000 habitants à peu près, et on me dit, dis-moi qu'est-ce qu'il faut construire pour que ce terrain soit pertinent dans les 20 ans à venir. Pertinent en termes à la fois juridiques, à la fois économiques, à la fois en termes d'attractivité, de rayonnement qu'on veut faire sur le territoire. Donc après, je pourrais vous détailler pendant les questions plus précisément en quoi ça consiste, mais c'est vraiment ça. Ça peut apparaître comme un jeu de Sims un peu, sauf que la différence c'est qu'on ne crée pas tout de rien, on crée avec un tissu urbain existant, et donc il faut s'appuyer sur ces synergies pour pouvoir créer justement la ville de demain. Alors au cours de ce stage, j'ai pu, comme l'a dit Monsieur Salnaf, travailler notamment sur le côté innovation, parce que c'est ce qu'on attend de nous en étant jeunes et en étant de l'école des ponts. C'est de dire qu'on a une vision un petit peu innovante de tout ce qui est fait aujourd'hui, et donc ça m'a donné l'occasion, alors que je suis dans la filiale VET Aménagement, de travailler à la fois sur des thématiques comme le véhicule autonome, la navette autonome, les parkings automatisés, à la fois sur les logements modulables, les logements modulaires, les logements qui peuvent se transformer en parking, en bureau, en ferme verticale, et puis j'ai pu également ferme verticale, oui, c'est des fermes avec des espaces verts sur les murs, en fait, ou les bâtiments végétalisés, voilà, la ville biophilique. C'est des projets extrêmement intéressants et qui sont vraiment, pour moi, hyper beaux, même dans le... puisqu'on travaille aussi sur des thématiques d'architecture au-delà de l'aménagement. Et c'est vraiment une pluridisciplinarité qui, moi, m'a attiré dans le département VET. Voilà, je pourrais vous le détailler plus dans les questions. Moi, en fait, mon intervention, je voulais surtout vous parler d'un cliché qu'il y avait, moi, quand j'étais en première année, et qui, je pense, qui est encore présent. Vous allez me dire, c'est que dans le département VET, il y aurait des cours pipo. Ouais, je sais. Oui, il ne fallait pas le dire, il paraît pipo. Ma présence dans le monde professionnel, enfin en tant que stagiaire, hein, je ne suis qu'un stagiaire, pas s'enflammer non plus, ça me donne une petite légitimité quand même pour répondre à cette question, il me semble, puisque souvent c'est les autres départements qui s'amusent à dire que chez les VET c'est pipo, et moi comme j'ai fait VET et que je vois ce qu'on attend de nous maintenant, je peux dire que non, c'est pas pipo pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en 9 mois de stage, j'ai utilisé absolument tous les cours que j'ai vus pendant la deuxième année. Quand je dis absolument tous les cours, c'est évidemment les cours d'aménagement, évidemment les cours juridiques, évidemment les cours financiers, mais je suis même allé jusqu'à utiliser un cours dont Jeanne avait parlé, j'avais vu sur le groupe commun. Il y a un cours où on fait un poster, en fait. On fait un poster pour expliquer le réaménagement d'un territoire. Eh ben même ce cours-là, je m'en suis servi parce qu'il y a eu un appel à projet qui a été lancé, l'appel à projet national Inventons la métropole, où ça a rassemblé tous les gros promoteurs et plus de 420 candidatures. Eh ben la réponse à cet appel à projet, elle devait être faite sous forme d'un poster, poster A3. Donc il y a effectivement tous les cours m'ont servi. Et au-delà du rendu qui coïncide particulièrement bien avec ce qu'on attend de nous dans les cours, il y a une méthode de réflexion qui est enseignée en VET. Et puis surtout, il y a des professeurs de grande qualité. Et ça, en fait, je tiens à vous le dire maintenant, c'est pas du tout de la lèche, hein, je vous le dis clairement, moi, quand j'étais en deuxième année, il y a un moment où j'ai hésité à me dire, est-ce que c'est pas vraiment pipo, en fait, les cours? Et je vois, a fortiori, que non, et que j'aurais même pu plus en profiter si j'avais moins été au foyer. C'est qu'en fait, on a des noms de professeurs qui circulent dans le milieu de l'immobilier. Et ça, c'est une chance assez inouïe de se dire qu'on peut bénéficier de l'expérience de gens qui ont 60 ans de métier et que personne d'autre n'aura parce que l'aménagement, ça passe aussi par l'expérience et que nous, on pourra en profiter et l'avoir dès nos 23 ans. Donc rien que pour ça, c'est la première raison pour laquelle, pour moi, c'est pas bullshit. Et puis pour finir, c'est de dire que la deuxième raison pour laquelle, pour moi, les cours de VET, c'est pas pipo, c'est parce que ceux qui disent que c'est pipo, comme l'a dit Thibault, c'est que c'est pipo parce qu'il y a moins de sciences dures. C'est pipo parce qu'il y a moins de mathématiques, il y a moins d'équations. Moi, j'avais fait MP en prépa. Et justement, j'en avais marre de faire un peu de maths. Donc effectivement, je suis allé en VET parce qu'il y avait moins de sciences dures. Et en fait, cette technicité, cette absence de technicité, elle est compensée évidemment par une autre intelligence qui va être l'intelligence sociale et le côté humain. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment manqué en fait pendant mes études d'ingé. Et c'est sur ça que je voudrais appuyer. Tous les projets qu'on mène aujourd'hui, il faut qu'on comprenne quand même les comportements humains et qu'on sache comment les gens réfléchissent. Pas les gens qui sont en école d'ingé comme nous et qui... puisque globalement, on est dans une petite sphère où on pense à peu près tous de la même manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment pensent les gens qui n'ont pas forcément accès aux mêmes études que nous, ou même qui pensent totalement différemment, comme des archis qui vont avoir d'autres enjeux dans la vie ou d'autres réflexions en termes économiques ou en termes techniques. Et donc, cet apport sur le côté humain, moi, je le retrouve parfaitement en VET. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, puisqu'on le retrouve dans des domaines qui sont complètement connexes à l'aménagement, à la fois sur le juridique, mais aussi sur le politique, le social, et puis tout simplement aller parler aux gens, parce que les projets, ça passe aussi par la concertation citoyenne, et c'est sur ça que je vais finir, c'est que pour moi, la personne qui sera la plus apte à aller en VET, c'est celle qui vraiment a cette attirance pour le côté humain. Voilà, merci à tous.
Bonsoir à tous, Étienne. Donc moi je me considère pas encore comme ancien, je suis encore du coup en stage de fin d'études, projet de fin d'études, 3A, et je vais vous parler de l'international. Moi, il y a un mois, j'étais en Suède, à KTH, et qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? On peut voir déjà toutes ces problématiques, tous ces défis dont on a parlé, de la ville d'aujourd'hui, de demain, des transports. C'est pas un problème déjà que le français. Bon, on l'a vu aussi avec le fait qu'on a beaucoup d'internationaux, enfin d'élèves étrangers en VET. C'est pas juste un problème français. Ça se développe. Enfin, ça se développe. C'est partout. C'est en Suède. C'est dans tous les échanges qu'on peut faire à partir pour la troisième année. Ce qui est intéressant, c'est que, comme il a été souvent dit ici, le VET, c'est un choix d'ouverture. Partir à l'étranger pour terminer son cursus VET, c'est s'ouvrir encore plus du fait que ces enjeux, ces défis sociaux, ces problématiques sociales qui sont présentées dans ces cours de VET peuvent être abordées de différentes visions. Et donc, c'était assez, pour moi, enrichissant de voir cette approche plus très tournée, développement durable, encore plus poussée qu'ici, par exemple en Suède. Mais également, il y avait de multiples choix pour cette troisième année à l'étranger. J'ai en tête, plus spécialisé, donc pour les VET, un master à Berkeley qui mêlait data et transport, mais encore à Montréal, des places pour l'Institut d'urbanisme. Donc, l'ouverture internationale pour les VET est assez personnalisée et même assez riche, des fois plus riche que dans certains autres départements. Donc, pour l'international, c'était ce que je voulais à vous dire. Et maintenant, je vais revenir rapidement sur le parcours que j'ai fait. J'ai pu faire mon année de césure 6 mois en start-up et 6 mois dans un cabinet de conseil. J'ai pu travailler sur des problématiques d'immobilier, de développement territorial, de financement de projets. À chaque fois, mon profil VET a été valorisé et même apprécié plus que d'autres profils. Pourquoi ? Parce que j'avais la connaissance des enjeux, la vision économique des problèmes et non simplement la technicité de l'ingénieur. Voilà, donc c'était... cette approche qu'on peut développer en VET, plus ouverte sur les différents enjeux sociaux, économiques et pas que techniques, est très valorisée et très utile pour la suite. Merci.
Est-ce que vous êtes encore avec nous ? Oui ? Alors, avant de passer la parole à Annel qui va expliquer ce qu'on fait ensuite, moi j'ai juste un message personnel. Je crois que vous avez pu vous apercevoir que autour de moi, il y a une équipe de gens absolument passionnés. Et d'ailleurs, une caractéristique du département dans sa pédagogie, c'est d'essayer de faire du sur-mesure pour chacun des élèves. Pourquoi ? Parce que d'une manière générale, tous les ans, c'est comme ça, les élèves qui viennent dans ce département VET, ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas là par défaut, ils ont un projet. Et nous considérons que c'est notre devoir et notre fierté de les accompagner dans leur projet individuel. C'est aussi ce qui fait qu'on a une dynamique de groupe que je trouve aussi passionnante. Pour un vieux schnock comme moi, c'est une énorme fierté à chaque fois que je retrouve mes élèves. Alors, juste ce message, c'est je sais que ceux d'entre vous qui se tourneront vers VET l'an prochain, ça ne sera pas par hasard. Ça sera parce que vous aurez envie, comme eux ont eu envie et comme eux ont envie. Vous aurez envie de ce qu'on fait, vous aurez un projet et vous trouverez en VET une équipe prête à vous accompagner individuellement dans ce projet.
Donc là, vous avez passé un petit bout de temps à nous écouter. On a un petit peu dérivé d'ailleurs sur le planning qu'on s'était fixé. Évidemment, vous avez, j'espère, des questions, peut-être des interrogations, des doutes, etc. Maintenant, on va se répartir en fait dans les rangs pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, ils sont venus en nombre. Donc, il y a des élèves actuels, il y a des plus ou moins anciens ou des 2,5, des 3A, des 4, etc. Ils sont donc ceux qui sont en deuxième année, j'ai envie de dire demain, c'est facile de les revoir parce que vous les croisez dans les couloirs. Les autres un peu moins, n'hésitez pas à prendre leurs coordonnées si vous avez envie de discuter un petit peu plus que là, deux, trois questions. Ils sont
tous les quatre d'accord pour les données, hein, numéro de téléphone, mail, voilà, ils sont d'accord pour tout. Et puis, bien évidemment, Pierre Salnave et moi, donc là, vous avez nos adresses mail, vous pouvez nous poser des questions par mail. Et le rendez-vous dans 2 mois, le 21 aussi, là, pour le coup, ce sera le midi. Donc, deuxième rendez-vous plutôt informel où on va avoir différents échanges, questions pour ceux qui sont intéressés. Alors, juste, ça aura lieu le midi. Alors, peut-être que là, vous avez des angoisses qui sont nées parce que j'ai dit ça. Si vous avez peur de ne pas manger, nous aurons prévu de quoi grignoter pour que vous ne tombiez pas d'inanition pendant vos cours de l'après-midi. Voilà. Donc, pour qu'on puisse bien profiter de l'heure et demie qu'on aura ensemble. Voilà, donc maintenant, j'invite tous ces VET à se répartir dans les rangs et puis vous à poser vos questions maintenant.